On va commencer l'atelier Image du terrorisme des migrants, faut-il tout montrer ? Alors, vous vous souvenez certainement de ces images marquantes donc en 2015 avec Charlie Hebdo, ce terroriste qui braquait, cette photo du terroriste qui braquait un policier à terre et qui l'assassinait sous les yeux de caméras et de photos amateurs, ou bien encore celle qui a marqué aussi en 2015 Alan Kurdi, ce petit enfant qui était échoué sur une plage et qui a fait la une des médias pendant quelques temps, ce qui a permis aussi aux journalistes de retracer son parcours de migrant, donc jusqu'à son décès sur cette plage. Pour parler de cette question importante, faut-il tout montrer sur les questions de terrorisme et de migration, nous accueillons aujourd'hui Pierre-Angélique Schuller, qui est iconographe de presse, qui travaille régulièrement pour différents journaux, Les Échos, Courrier International, Le Monde, et qui décrypte chaque mois dans le mensuel Phosphore de Bayard, pour le magazine pour les lycéens, une photo d'actualité. Elle travaille actuellement pour le magazine Jeune Afrique.
Bonjour. C'est bon là Si vous entendez, oui, ça va. Voilà, moi, je veux vous avertir que, donc là, moi, je suis iconographe, donc on m'a demandé de réfléchir à peut-on tout montrer ou pas dans les journaux. Donc forcément, il va y avoir des images qui risquent de vous choquer, mais je ne les ai volontairement pas éloignées parce que aussi ça fait partie de notre quotidien, nous les iconographes ou tous les gens qui travaillons autour des images de presse, et que c'est ces images-là aussi qui nous poussent à réfléchir et à savoir de peut-on les publier, est-ce qu'elles apportent vraiment une information, est-ce que c'est respectueux vis-à-vis des personnes qui sont représentées. Donc moi, la première question que je me pose en fait quand je cherche des photos, c'est de me dire est-ce que la photo que je vais avoir envie de publier, est-ce qu'elle me donne une information ? Parce que pour moi, en tout cas iconographe de presse, l'important aussi c'est que la photo raconte une histoire et donne une information supplémentaire ou complémentaire au texte qu'elle accompagne. En fait, j'ai l'habitude de dire que moi, mon métier, en fait, c'est de donner envie au lecteur de lire les textes des journalistes. Je suis un faire-valoir, en fait. Bon, des fois, les journalistes, ils ne sont pas très d'accord parce qu'ils préfèrent écrire plus et qu'il y ait moins de photos. Mais quand même, je trouve que souvent, les gens rentrent dans le texte grâce aux photos et aux titres. Donc, par exemple, je peux vous montrer un petit reportage qui a été fait sur les migrants. C'est qui a gagné un prix à Bayeux. C'est le photographe, il s'appelle Yanis Berakis, et il a suivi des migrants tout au long de leur route. Donc, si on voit une image comme ça... alors, c'est un atelier aussi, hein, donc n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez me couper, lever la main, enfin voilà, on est dans un échange et tout. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont qui travaillent dans la photo ou qui sont qui les choisissent, qui les mettent en page ou d'accord, ok. Donc bon bah voilà, vous pouvez donner votre expérience sans souci, votre avis, tout ça. Donc quand moi par exemple une photo comme celle-ci, je me dis qu'elle est très bien parce que c'est une photo qui apporte un message. On comprend tout de suite en fait que ce bateau, il vient de traverser, on voit l'horizon au loin, on voit rien derrière. Donc on se dit qu'ils ont fait une traversée très longue et qu'ils arrivent là au premier plan. Il y a la rive, ils ont enfin accosté. Le fait d'avoir saisi cet homme qui saute comme ça, on sent la joie et enfin la libération du cauchemar qu'il vient de vivre. Donc sans montrer de choses horribles finalement, dans un instant de joie, on arrive aussi à faire passer un message de peine et de souffrance qui était antérieur. Alors attendez, hop, comme toujours, la technique, voilà. Donc c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire d'avoir choisi de prendre des rescapés. Il y a des enfants au premier plan, donc on se dit, eux, ils ont réussi, ils ont leur avenir. C'est une image porteuse d'espoir.
Alors attendez, parce que est-ce qu'il y avait une photo en particulier que je voulais vous montrer? Ah voilà, c'était là. Donc c'est toujours le même photographe dans le même reportage. Donc on voit par exemple, il y a deux photos de la même série. Donc nous, iconographes, on est toujours submergés par un flot de photos et on doit choisir celle qui nous semble la plus parlante. Donc par exemple, en regardant la série de ce photographe, quand on voit cette image, on est tout de suite ému parce qu'il y a un geste de tendresse. On sent que ce père embrasse son enfant, qu'il la réconforte. On voit derrière la route, donc on se dit, ben voilà, ça symbolise tout le chemin qu'il a dû faire pour arriver à sauver sa famille, à la mettre de côté. Mais en même temps, si on regarde la photo suivante qu'il a faite, c'est aussi tout à fait pratiquement, excusez-moi, c'est pratiquement la même photo que tout à l'heure, mais le geste en fait du père n'est plus du tout le même. Il n'y a plus du tout la même symbolique là. En fait, de le voir crier, on ne sait pas trop si c'est gentil, si c'est méchant. Et donc aussi choisir une photo, enfin c'est idiot ce que je dis, choisir une photo, c'est faire un choix, forcément. Donc quand on est amené à regarder plusieurs images, forcément, on essaye de choisir celle qui, dans la symbolique ou dans l'histoire qu'elle raconte, correspond à ce qu'on a envie de transmettre comme information. Alors par exemple, si je vous laisse vous commenter vous-même cette photo, Vous pouvez me dire quelle information vous apporte cette photo. Voilà, il y a des iconographes, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous, quand vous voyez une photo comme ça, vous arrivez à vous raconter une histoire? Est-ce que tout de suite ça vous parle? Est-ce que... Il n'y a pas d'être humain, on ne voit pas la souffrance, on ne voit pas de corps, on ne voit pas de mort, on ne voit pas de blessés. Mais par contre, on sent tout de suite en fait, la détresse humaine, on comprend qu'il s'agit de milliers de personnes. Il y a des bateaux qui sont échoués, fracassés sur cette île, c'est à Lesbos. Donc il y a une émotion qui passe dans une image comme ça sans pour autant être dégradante et premier degré en fait, avec un peu de recul et aussi de symbolique. Des fois les images elles sont très fortes, même plus fortes que quand on veut être trop premier degré. Ensuite il y a une question aussi de est-ce que quand on choisit une photo parmi un reportage, est-ce qu'on de pas les montrer ou de les montrer, est-ce qu'on cache aussi une certaine vérité, une certaine situation? Donc par exemple, alors je vous dis la photo d'après, elle est pas très, elle va vous heurter, mais je vous le dis. Donc là, c'est dans un camp de déplacés près d'Alep. Un petit enfant qui est devenu aveugle suite au bombardement de sa maison. Donc le photographe a fait tout un reportage sur cet enfant. Cette photo, elle est très bien parce que du coup, on comprend le camp, la misère, le truc temporaire, le fait qu'il ait les yeux cachés comme ça par un masque, on comprend qu'il a un problème, qu'il est sûrement devenu aveugle, qu'il est blessé. Et dans la même série, le photographe avait fait ça comme photo. Donc c'est une photo qui est très dure parce qu'elle rentre vraiment... Elle est dure parce que du coup, on rentre vraiment dans la blessure. C'est un gros plan sur le visage. On a un petit peu un côté voyeuriste, en fait, qui fait qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par là? Est-ce que vous, en tant qu'utilisateur de photos ou lecteur ou écrivain, une photo comme ça, vous imaginez qu'elle puisse un jour être publiée ou pas dans vos revues? Est-ce que c'est en général l'autre, la suivante? Ouais. Elle est forte, ouais. Alors, moi, je pense un peu qu'on peut aussi montrer des choses atroces,
mais il faut aussi les mettre en scène. C'est-à-dire que je pense une grande, cette photo-là, l'autre, en gros plan, sur une double, dans un ça, c'est pas possible. Mais par contre, en imaginant un récit photographique, si on a la place de mettre plusieurs photos, cette photo-là aussi, elle éclaire un état, une réalité, et elle peut être publiée. Mais peut-être en plus petit parce que c'est un gros plan, donc on peut quand même voir pour ceux qui voient, ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la vie de ce jeune garçon. Mais l'utiliser comme ça toute seule, je pense que c'est une photo qui du coup est repoussoire finalement parce qu'elle donne envie de tourner la page, de pas s'arrêter, et c'est, ça donne en fait l'effet inverse de ce qu'on a envie de faire. Par exemple, au Monde, lors des attentats de Charlie Hebdo, il y a cette photo qui a été publiée. Donc, c'est un photographe qui réussit à rentrer dans les locaux. Alors, cette photo, moi, je trouve, elle est très respectueuse, en fait. On ne voit rien, on ne voit pas les corps. On voit juste le sang des personnes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par la publication de cette photo. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle porte atteinte au respect des personnes qui ont été tuées ou qui ont été blessées. Mais je pense que le fait que ce soit des gens que les connaissent ou aient déjà vu médiatiquement, le fait de voir leur sang, ça a choqué en fait beaucoup de lecteurs. Et donc du coup, il y a aussi se pose la question de la distance, c'est-à-dire de si on montre des photos de choses qui se sont passées près de chez nous, la barrière est moins forte, c'est-à-dire on peut moins montrer de choses horribles quand c'est à côté de chez nous que quand c'est plus loin dans l'espace, en fait, dans la planète, qu'une photo comme ça à Mogadiscio, personne n'aurait été choqué en fait de voir des traces de sang d'un journal ou en Tunisie ou en Turquie, voilà. Donc c'est toujours la limite, on peut c'est compliqué à savoir exactement où mettre la barre. Donc, dans les photos aussi, qui sont un peu... qui montrent des corps, qui montrent des gens blessés, il faut toujours aussi se poser la question de la famille dans tout ça, en fait, ou les rescapés, les gens qui les connaissent, comment ils peuvent réagir. Alors, par exemple, il y a des journaux comme... là, c'est le Parisien... ça, c'est les attentats à Charlie Hebdo, qui choisissent systématiquement, ils ont choisi de flouter les visages des rescapés. Donc on voit pas très bien parce que c'est un peu flou. Mais en fait, l'image qui est là, la jeune fille qui est portée par les policiers, elle a un flou sur le visage qu'ils ont eux-mêmes rajouté pour pas qu'on la reconnaisse. On peut voir que... donc la photo suivante, c'est pareil, le jeune homme qui est là, qui est porté en haut à gauche aussi, ils ont flouté le visage pour pas choquer sa famille ou lui-même. Mais par contre, si on regarde, alors attendez, voilà, si on regarde toujours le Parisien, donc un événement un peu similaire, mais ça c'était à Bruxelles, là ils n'ont pas pris la peine de flouter les visages. Pourtant, ces gens-là ont droit aussi à un respect, voilà. Mais c'est aussi, je pense, le fait qu'il y a une barrière du pays voisin et qui n'est pas notre pays à nous, notre capitale. Le réflexe est, voilà, on se pose peut-être moins de questions et on laisse peut-être passer plus de choses. Par exemple, Le Point, eux, quand ils ont publié cette photo, ils ont pris la peine de flouter les visages. Et Paris Match, c'est pas la même photo, mais apparemment ils se sont pas posé la question. Alors la photo, elle est très belle, hein, elle fonctionne très bien en une. On dit toujours qu'une une, il faut faire un peu comme si c'était une affiche publicitaire en fait, et il faut aller directement à l'information. Donc là, dans cette image, il y a tout. Il y a la douceur du regard entre l'homme et la dame. On comprend tout de suite qu'elle est blessée, qu'elle vient de vivre un événement traumatisant. Alors, est-ce que... c'est compliqué hein, de se dire, est-ce que ça porte atteinte à son image ou pas ?
Je ne sais pas, vous pensez quoi de flouter, pas flouter dans vos pratiques quotidiennes? Vous avez plutôt quoi comme démarche, comme envie ou comme réflexe? Oui. Ouais. Moi, je trouve vous avez tout à fait raison. En fait, moi aussi, dans ma pratique, je me dis si on me demande de flouter ou s'il est nécessaire de flouter la personne, je me dis je préfère pas la publier finalement cette photo et aller en chercher une autre parce que c'est aussi pas affirmer son choix finalement. C'est-à-dire c'est se restreindre et c'est prendre une décision mitigée en disant on va montrer, mais finalement on n'ose pas vraiment, donc on camoufle un peu pour se protéger. Et il y a quand même énormément de photos, donc on peut toujours aller en chercher une autre et pas forcément en venir là. Il y a toujours des situations où les gens sont un peu dans l'ombre ou tout ou trois quarts.
Juste une question par rapport au fait de flouter ou non. Il y avait eu à un moment donné une petite agitation pour savoir s'il fallait publier ou non les noms de terroristes ou simplement mettre leurs initiales dans les articles. La question peut aussi se poser pour la photo. Est-ce que ça peut choquer ou c'est choquant de publier la photo d'un terroriste présumé sur tout ce que ça peut évoquer derrière, c'est-à-dire d'une certaine manière personniser le mal qui vient d'être commis.
Le starifier, en fait, c'est ça un peu... Alors après, ça dépend si c'est du coup une personne qui est encore recherchée. Ça peut aussi aider, c'est une fonction aussi d'information et de dire, ça peut permettre d'avancer les choses. Bon, après, je sais pas, ça c'est des questions de se dire pourquoi on le cacherait. Enfin, je sais pas, vous dites quoi par rapport à montrer une photo de terroriste ou pas, de le personnifier. Ça vous semble choquant ou a priori?
Doit-on dénoncer la barbarie et dans quel but? Et après, bon, moi je suis simplement éditeur de livres, donc je ne suis pas journaliste de presse, mais c'est sûr qu'en couverture, il va y avoir le paradoxe de montrer et le paradoxe de séduire l'acheteur par la couverture et peut-être renvoyer à l'intérieur de l'ouvrage des illustrations dites choquantes.
Oui, oui.
Aussi, sans être voyeuriste, il y a un devoir de vérité de révéler et de dénoncer la barbarie.
Oui, oui, non, mais vous avez raison. Il ne faut pas non plus trop édulcorer la réalité. C'est-à-dire que la réalité, parfois, elle est affreuse. Et de ne pas vouloir la montrer, c'est aussi, finalement, se cacher une partie de la réalité et vouloir protéger le public. Alors que finalement, parfois, on vit des situations qui sont horribles et c'est bien aussi de prendre conscience sans forcément en rajouter et traumatiser tout le monde. Mais ça fait partie aussi d'une information, c'est-à-dire qu'un journaliste qui irait ou quelqu'un qui relate, qui a vécu une histoire ou qui va enquêter, il ne va pas cacher, il ne va pas dire « Ah ben non, je ne vais pas dire qu'il y a eu tant de morts, que les gens étaient allongés par terre, qu'il y était un carnage. » Qu'il y a la télé en face, ouais. Oui. Que l'info... que en fait, face aux journaux télévisés, c'est ça qui n'ont pas beaucoup de recul par rapport aux situations et qui répètent en boucle les mêmes informations sans apporter de... Et donc, par rapport au procès et aux droits des familles, il y a le VSD qui avait publié cette photo lors des attentats du Bataclan. En fait, donc la famille, on voit un jeune homme là qui est allongé, qui est un peu dénudé. Et le VSD a présenté cette personne comme un rescapé, mais finalement, ensuite, il est décédé. Et sa famille, elle a porté plainte auprès du, du journal et auprès de la photographe. C'était Maya Vidon-White. Et cette photographe et le journal, en fait, finalement, les poursuites n'ont pas abouti au pénal parce qu'elles ont été jugées irrecevables. Parce que quand même, il faut se rendre compte que dans le droit français et européen, donc à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a deux articles, c'est l'article 8 et l'article 10, qui, y en a un donc, qui dit qu'en fait, on reconnaît la liberté d'expression et un autre qu'on reconnaît le droit à l'image. Et donc, avec ces deux principes fondamentaux, il faut arriver à jongler et à se dire... c'est, du coup, souvent, les tribunaux ils doivent juger entre ces deux parties en se disant voilà, est-ce que la liberté d'expression n'est pas empêchée si on ne publie pas cette photo, si on n'avait pas publié cette photo? Et d'un autre côté, est-ce que le droit à l'image a bien été respecté? Mais par contre, il y a un truc important, c'est qu'il y a aussi un truc, la suprématie du droit à l'information. Et le droit à l'information, il est supérieur, il emporte sur le droit à l'image. En fait, que dans certaines situations, c'est pas nécessaire de demander l'autorisation aux gens qui sont pris en photo pour publier leur image, parce qu'elles ont fait partie d'un événement historique et réel, un sujet d'actualité. Aucun tribunal ne dira tant que ça porte pas dégradation en fait au respect de cette personne, tant que l'image de cette personne n'est pas dégradée, on peut pas, les gens ne peuvent pas porter plainte en fait d'être vus participant à un événement. Donc par rapport à ce que je vous disais aussi que plus c'est loin, moins on met de filtres en fait dans nos représentations de la mort et des blessés. Par exemple, là, c'est récemment dans Le Figaro, cette photo a été publiée, c'est un attentat au Mali, le dernier. Voilà, on voit rien, mais je vais vous la montrer. Hop. Donc, l'image en soi, elle est comme ça. Donc on voit les corps. Bon, c'est un peu flou. Je suis désolée, hein, mais bon, on voit les corps. Les morts sont là, ils sont pas recouverts. Voilà. Donc c'est. Je pense que Le Figaro n'aurait pas publié cette photo si c'était, par exemple, en France, sachant que dans le fil de l'AFP, les photos suivantes, c'était celle-ci. Voilà, c'était des photos un peu similaires où les corps commençaient à être recouverts, donc on ne pouvait pas les identifier. Voilà, qui apportait, je pense, la même information finalement, sans cacher la réalité, mais qui restait dans un respect des morts. On a aussi... alors là, bon, ça ne va pas être... je vous dis, ce n'est pas top... C'est Paris Match. Lors des attentats à Nice, ils ont publié minimum trois doubles. Là, j'en ai sélectionné que trois. Dont la première, voilà, je pense que c'est les seuls à oser faire des choses comme ça. Donc, c'est terrible, en fait. Voilà, ils ont... Apparemment, eux, la question de la dignité humaine, du respect des morts, ici, ils ne doivent pas trop se la poser. Sachant qu'après, il y avait quand même d'autres photos qu'ils ont publiées où là, bon, ben, voilà, les corps sont recouverts, ça donne quand même la même information. Voilà, est-ce que c'est la peine d'aller d'en montrer trop? Je ne sais pas, vous dites quoi? Après, ça aussi, ils ont montré ça en double. Là, bon, c'est recouvert, le corps est recouvert, mais il y a quand même un truc un peu voyeuriste de se dire, ben voilà, ils ont choisi une photo où le photographe s'est approché d'un enfant, a zoomé. Donc, c'est un peu tout faire pour tirer l'alarme, pour chercher chez les gens le côté malsain qu'on peut avoir parfois dans des situations comme ça. Voilà, c'est pas... Ouais. Oui, mais bon. Ouais. Oui, mais c'était en vente quand même. C'était ouais. Donc après, il y a d'autres magazines. Là, c'est Le Point. qui, bon, ben voilà, on choisit des photos qui sont terribles aussi, mais voilà, on a une émotion, on comprend l'ampleur de la situation. Et il y a notamment celle-là que moi je trouve très bien finalement, parce qu'on se place du côté des rescapés. On voit l'homme qui est allongé, secouru, donc on se dit bon, ben, c'est bon, il va être sauvé, ce qu'il a eu, c'est pas très grave. On voit qu'il se lève comme ça pour regarder derrière et on comprend qu'il découvre en fait l'ampleur de la situation, qu'il a échappé au pire. On voit sa femme sûrement derrière qui a deux chaussures dépareillées, donc on comprend que dans la fuite, elle a dû perdre ses affaires. Enfin, on arrive tout de suite, je trouve, avec une image comme ça, finalement, à se raconter plein d'histoires et à rentrer en empathie en fait avec les survivants et puis la famille aussi des gens qui sont morts aussi. Il n'y a pas besoin de... Oui, allez-y.
Oui, je me place en tant que lecteur. Hein. Je ne suis pas du tout dans cette profession-là. En vous écoutant, je me dis que vous vous posez quand même beaucoup de questions. parce que vous détaillez la photo. Moi, en tant que lecteur, ça ne me choque pas sur un événement comme ça qu'il y ait une photo qui choque. Et puis, vous n'allez pas me dire qu'un quotidien, pour qu'il se vende, plus ça choque, plus il se vend. Bon, il y a un côté... Vous n'en parlez peut-être pas, mais enfin, ça, on le sait. Moi, ce qui me dérange... Alors, dans la photo de tout à l'heure, où il y avait vous avez montré le jeune homme qu'on voyait, la moto des pompiers, enfin, le camion des pompiers, pardon.
Oui, ouais.
Vous n'avez pas... moi, je vois autre chose. C'était les titres qu'il y avait des articles. Il faut voir aussi, si vous n'avez que la photo, bien entendu, voilà. Moi, voyez-vous, cette photo, bon, je la vois. Je n'avais même pas vu qu'il y avait le jeune homme à côté. Je vous dis,
non, mais on ne le voit pas, là. Il y a un carré noir.
Il y a un visage, quand même, là, en haut.
Non. En fait, il y a un pompier.
Il n'y a pas un visage, là ?
Si, mais c'est le pompier.
Ben oui, ben, voyez, on ne sait pas qui c'est. Donc... Mais moi, je suis beaucoup plus... ce que je vois en premier, je vais ramper sur des corps.
Ouais.
Qui est tout aussi lamentable. Ça ne veut pas trop ça, parce que est-ce qu'on a besoin de dire que j'ai rampé sur des corps ? Donc c'est presque plus agressif pour moi, les titres, que la photo
que
elle-même.
Alors,
voilà, alors, pour en terminer, donc une photo, c'est vrai, on peut toujours discuter, il fallait. Il y a des événements comme ça, je crois qu'on peut supporter pour bien comprendre l'horreur des choses, il faut qu'on ait une photo. Ce qui est beaucoup plus pénible, pour moi, c'est la répétition des photos lorsque ces événements arrivent. C'est la répétition de l'événement sur les télés pendant toute la journée. Vous allez avoir tous les journaux, les télés, chacun mènera sa photo. Et alors là, on est... Là, ça passe plus après parce qu'il y en a trop. Quoi. Mais c'est plus ça que le fait d'une photo elle-même. Ou alors, il faut être vraiment voyeuriste. Mais moi, personnellement, quand je vois une photo comme ça, je la vois comme ça, premier coup d'œil. Mais je ne vais pas aller détailler dedans.
Non, vous avez raison.
Voilà,
c'est-à-dire qu'après, la photo, elle est toujours... Enfin, quand on travaille dans la presse, on sait toujours qu'une photo est associée à un texte et que le texte qui va y avoir, le titre, ce qu'on appelle la titraille, le titre et la légende, vont aussi influencer la lecture de l'image. Et que c'est très important de faire attention à qu'est-ce qu'on va coller comme mot sur une photo. Ça peut... la transformer complètement, lui donner un sens qu'elle n'a pas, ou l'accentuer, ou l'amoindrir. Après, évidemment, un lecteur, quand il voit une photo, il ne va pas rentrer dans les détails comme moi je rentre, parce que c'est mon métier, j'ai l'habitude et tout, mais quand même, dans l'inconscient, dans la culture visuelle que vous avez, de tableaux, de photos connues, finalement, quand on regarde une image, elle vous fait passer un message. Le message, il est subconscient, il n'est pas... mais si je vous fais un essai un jour, prenez un journal et regardez une photo et essayez de parler de la photo, vous verrez que finalement vous y voyez beaucoup plus de choses que ce que vous avez eu l'impression d'y voir au premier plan. Après, c'est vrai que les quotidiens, enfin les télés en continu qui n'ont pas eu de recul pour parler d'un événement, pour avoir des sources d'informations diversifiées, pour pouvoir mélanger des informations, les recouper, ils participent au fait aussi de banaliser des photos qui peuvent être ou des situations ou des moments qui peuvent être atroces, et le fait de les voir en non-stop comme ça, ça donne aux gens une impression que que finalement, bah, c'est rien, parce que ça fait 5 heures qu'on regarde la télé et 5 heures qu'on voit cette même image. Donc, ça n'apporte pas... c'est...
Juste pour conclure sur la question et la réponse, quelle est la responsabilité de l'iconographe dans le choix de sa photo et le titre et la légende qui y sont associés ? Est-ce que tu peux nous dire peu s'il a son mot à dire en disant « là, vous déformez un peu ce que j'ai choisi »
La responsabilité... nous, quand on propose des photos, on ne montre pas toutes les photos qu'on a trouvées. Donc, on fait une sélection. Et déjà, donc, dans cette sélection, c'est nous qui avons mis de côté certaines images qu'on estime à ne pas correspondre au support pour lequel on travaille ou qu'on estime donner une information, être bien composée. Après, par-dessus vont venir s'agréger des légendes, des titres. Ça, ce n'est pas nous qui les faisons. Mais par contre... travailler dans un journal, c'est aussi travailler en équipe. Donc, on peut toujours aller voir les personnes qui ont mis le titre. Et si on trouve que c'est choquant, essayer d'en parler avec eux, voir leur point de vue, essayer de faire changer les choses. Mais après, le choix final, c'est pas l'iconographe qui l'a, c'est le rédacteur en chef.
Ok, on avait une question.
Oui, vous venez de Claude Ganter de l'agence Cyric. Vous venez de répondre à ma première constatation que de toute façon... Les photos comme ça ne sont pas plaquées dans un journal par hasard. On ne va pas chercher des photos sur un site et on les met. Il y a vraiment une discussion avec les services photos. Il y a aussi, je pense, tout un travail qui est fait aussi en lien avec la rédaction. Il y a vraiment un choix éditorial de savoir si on doit montrer effectivement des photos. C'est un choix éditorial pour Match. On le connaît depuis très longtemps, mais dans d'autres publications, effectivement, on va jouer... pas forcément que sur l'émotion, mais on va jouer sur des à côté, sur des photos qu'on n'aura pas vues partout. Et puis parfois, il y a des services qui veulent aussi la photo qui tourne partout, parce que le lecteur le veut et le service photo va le proposer aussi à sa rédaction. Oui. C'est ça. Et puis, il y a une question de rapport au temps aussi avec la photo. Ça va extrêmement vite, les publications par rapport aux publications sur Internet. Donc, moi qui travaille aussi dans la photo, je vois très bien que les flux de photos doivent être extrêmement rapides et que parfois aussi, on se retrouve avec un rapport au temps qui est difficile, qui est plus difficile. Et parfois, on est sur l'émotion. On travaille sur l'émotionnel. Et sur des photos émotionnelles qui parfois aussi doivent avoir une valeur artistique en plus, quand même, il faut quand même le dire. Je veux dire, pour que ça rentre dans une maquette, pour que ça soit l'œil, je ne veux pas parler de séduction, mais il y a quand même...
Qu'il soit bien composé, que ce soit une composé. Photo.
Voilà, c'est ça. Mais au milieu de tout ça aussi, c'est très intéressant de reparler aussi de la photo du petit Ilan sur la plage.
Oui.
Par exemple.
Ça va.
Ah, ça va arriver, oui. Pardon, j'étais trop...
Non, mais c'est parfait, on est...
Voilà, je voudrais juste dire aussi que la photo, même si ça paraît choquant, et ça c'est par rapport à la distance, moi j'ai commencé à travailler dans les années 90, en 95, j'ai commencé à travailler sur le Rwanda, vraiment. Et je pense que la photo a déclenché aussi quelque chose qui a été publié dans la presse, a déclenché quelque chose, une vraie information de ce qui se passait au Rwanda. Donc la photo, c'est avant tout de l'information et c'est vraiment important, même si elle paraît choquante parfois. Je pense qu'il faut qu'elle ait sa place vraiment au nom de la formation dans la presse et que ça reste comme ça surtout.
Voilà. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Après, la photo, c'est aussi une façon d'alerter aussi le public et de montrer une réalité. Donc il faut pas... Oui, il y a quelqu'un qui voulait poser une... Ah.
Oui. Moi, je suis pas photographe, mais il me semble que une photo, la première responsabilité, c'est le photographe qui cadre et qui déjà, si vous voulez, l'impression du dixième de seconde de la photo. Pour moi, il y a déjà ce que j'appellerais un concept d'image. On sait, par exemple, que le dessin au trait est plus prégnant de sens dans un cerveau qu'une photo en couleur. Donc déjà dans le cadrage de l'image, elle est en noir, elle est en couleur, il y a déjà une première responsabilité du photographe, une responsabilité et une créativité.
Oui.
Mais une créativité que j'appellerais conceptuelle, parce que déjà il y a un jugement dans le cadrage. Ça, c'est une première chose. Alors ensuite, la même photo selon le support peut dire des choses très différentes. Si ça va être sur un tabloïd anglais, genre le Sun ou je sais pas quoi, elle n'aura pas le même sens que si elle est dans le Figaro.
Non, mais oui, oui.
Déjà, le contexte de réception du lectorat. Hein. Et puis alors, après, bon, moi, ça m'est arrivé dans un passé lointain de travailler à Time Life, où on travaillait d'abord sur la photo plutôt que sur le texte, mais on avait trois niveaux de lecture. On avait le niveau image, le niveau légende, et ensuite le niveau chapitre du livre, hein, ou chapitre dans le Time, hein, par exemple. Donc, il me semble que le travail du photographe, de l'iconographe, du journaliste, moi, je plaide pour une pédagogie réflexive qui emmène les gens de l'image et de ce que le concept d'image contient déjà vers une réflexion jusqu'à l'éthique, si on peut rêver.
Hein? Ah ben oui, oui, mais de toute façon, c'est exactement après ce qui se passe dans toutes les rédactions. Je pense qu'il y a toujours énormément de discussions autour du choix des photos, en fait, de se dire peut-on la publier ou pas, est-ce qu'on la montre. Non, mais vous avez tout à fait raison. Après, moi, comme je vous l'ai montré là, j'ai écrit des livres de décryptage de photos en collaboration avec David Groison, qui est rédacteur en chef de Phosphore. Et c'est aussi dans un but d'éduquer à l'image, d'arriver à lire une image finalement comme on lit un texte. Voilà, de comprendre ça.
Oui, moi j'avais une question qui fait suite à ce que vous disiez. La photo avec les gilets de sauvetage,
oui.
Je l'ai trouvée très marquante. Et ce qui m'a intéressée, c'est que vous avez dit que pour vous, elle était extrêmement touchante, qu'on sentait de la détresse qu'il y avait derrière cette photo. Moi, j'aurais pu tout aussi bien imaginer un site du FN, en fait, la publiant, en essayant de véhiculer le message qu'en gros, il y a une déferlante de migrants et que non seulement ils bouleversent nos sociétés, mais qu'ils ruinent l'environnement.
Oui,
en gros.
Non, mais après, c'est le problème d'une photo. C'est qu'une photo en soi, il y a d'abord la démarche du photographe derrière qui choisissait, comme disait monsieur, avec son œil, son regard, il choisit un message qu'il veut faire passer. Mais il y a aussi, après, l'utilisation de cette photo-là, du support dans lequel elle est publiée et du contexte dans lequel on la met. Évidemment, associé avec un titre comme ça, racoleur, en disant honte aux migrants, bref. Oui, c'est vrai qu'une image, elle a toujours un sens, mais le texte qui va l'accompagner va aussi appuyer ou inverser le sens d'une
photo.
Mais
du coup, le photographe, en fait, là, il n'a plus de moyen de contrôler en fait l'utilisation, on est d'accord ?
Non, lui, il ne peut plus. Et c'est vrai qu'il y avait eu un peu une polémique, c'était pour les Nuits Debout. J'avais vu ça sur Facebook, un photographe qui avait fait des photos pour Match, je crois aussi. Ou je ne sais plus quel journal, non, enfin bon, bref. Et il y avait du coup, tout l'article était un peu anti-Nuit Debout. Et le photographe, lui, il n'avait pas fait ça dans cette démarche-là, il avait fait un peu pour montrer que c'était bien ce rassemblement citoyen, et il voulait montrer que ça se passait bien, que c'était bien organisé, que les propos qui se tenaient étaient intéressants et tout. Et bon, voilà, lui, ça lui a échappé, et après... Lui, les photographes, ils peuvent pas contrôler, en fait. Ou alors, ils peuvent refuser en disant « ce titre-là, je veux pas que mes photos soient publiées dans ce titre-là ». Mais je pense que c'est assez rare, en fait, qu'ils aient le... Parce que déjà, si c'est diffusé par une agence, les agences vont pas demander aux photographes « est-ce que vous êtes d'accord pour que vos photos... » Enfin, madame qui travaille au CIRIC peut nous le dire... On ne prend pas le temps d'aller demander aux photographes s'ils sont OK pour que leurs photos soient publiées. Ils font, ils se disent. Voilà. Il y a ça aussi, c'est que les photographes sont un peu précaires et que du coup, pour eux, c'est gagner de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Après. face du coup aussi à montrer l'horreur, on peut aussi choisir de suggérer. C'est-à-dire, là, dans la croix, pour Bruxelles, les attentats de Bruxelles, le choix qui a été fait, c'est de se porter du côté des rescapés, sans montrer aucun corps, aucun sang, aucun blessé. Ils ont montré des gens qui allaient bien, mais qui, du coup, étaient traumatisés. On les voit tous abattus, isolés, alors qu'ils sont tous ensemble. Enfin, donc, on sent qu'ils viennent de vivre une situation traumatisante. Et c'est aussi une façon de montrer de montrer une réalité un peu choquante, sans vouloir choquer ses lecteurs. Là, par exemple, Libé aussi, alors ils avaient publié d'autres photos, mais au milieu de leur page, ils ont aussi publié cette photo. On voit, ouais. C'est une trace de pas ensanglantée, en fait, sur une bande blanche d'une route. Donc on comprend en fait que la personne qui est passée par là, elle a dû avant marcher dans des mares de sang et c'est la trace de son passage qui est restée et c'est une trace en sang. Donc ça touche aussi, une photo comme ça peut toucher autant qu'une autre plus terrible. Et on a aussi là dans le pèlerin... après le Bataclan, le choix. Alors aussi, il y a aussi le truc de la périodicité, c'est-à-dire que quand on est un quotidien ou quand on est un hebdomadaire, on n'a pas du tout le même temps pour traiter l'information. Un hebdomadaire, il va avoir le temps de se poser, de réfléchir, de choisir un angle, d'envoyer un photographe et de dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on a envie de montrer maintenant ? C'est pas l'état d'urgence... de la panique de l'événement, mais c'est qu'est-ce qui se passe après et maintenant, comment faire pour passer, pour survivre, pour justement résister. Et donc, il y a l'angle choisi du reportage et le point de vue que l'on veut donner d'une situation. Donc là, c'est clairement avoir envie de donner un point de vue d'espoir. En choisissant de mettre un enfant, l'enfant qui symbolise l'avenir, il est entouré d'adultes, du coup, qui le regardent se diriger pour mettre une fleur sur un mémorial. Ça donne aussi l'idée de la reconstruction, de qu'est-ce qu'on va faire après dans un monde où les enfants sont confrontés à des terreurs comme ça. Voilà. Mais après... moi aussi, je trouve que c'est bien aussi de suggérer et de montrer, mais il ne faut pas, enfin, de suggérer et de montrer des choses positives, mais c'est aussi important de montrer les choses aussi telles qu'elles sont, parce qu'on a la responsabilité des photos qu'on publie, mais on a aussi la responsabilité des photos qu'on cache, c'est-à-dire qu'on ne montre pas. Et il ne faut pas non plus trop se censurer en disant « oulala, ça risque de choquer ». Il y a aussi une prise de position qui est importante à apprendre quand on montre des photos et qu'on les publie. Donc, il y a parfois des photos qui s'imposent, donc comme la photo du petit Elan. Voilà, et c'est cette photo-là qui va devenir une photo iconique et qui est déjà devenue une photo iconique parce qu'elle a été reprise par plein d'artistes, qu'elle a soulevé l'émotion populaire. C'est des photos qui arrivent, c'est exactement le même genre de photo qui finalement, pendant la guerre du Vietnam, cette petite fille... c'est des photos qui arrivent à un moment donné, et ça c'est Nick Hutt qui a fait la photo, où il y a une situation de crise où les gens ne savent plus comment faire avec une situation. Là, par exemple, pour le petit Elan, ça faisait des mois qu'on voyait des photos de réfugiés qui traversaient les frontières. Ça avait été traité sous tous les angles, les politiques ne savaient pas trop comment gérer, voilà, et cette situation... Et tout d'un coup a surgi sur les réseaux sociaux cette photo qui tout d'un coup symbolisait en fait cette misère et cette détresse qu'en fait on essayait de se cacher et qu'on ne voulait pas voir. Alors c'est des photos qui font prendre conscience d'une situation qui du coup vont toucher des gens qui jusqu'à là arrivaient à s'extraire un peu du problème en disant ça nous concerne pas, c'est les autres, c'est les étrangers, c'est pas chez nous. Et le fait de voir finalement un enfant blessé, un enfant mort, c'est choquant. Mais parfois, ça fait prendre conscience. Voilà. On arrive à la fin là, mais donc c'est aussi l'importance d'en montrer ou pas montrer. C'est aussi donc, comme je disais tout à l'heure, choisir. Le regard, c'est-à-dire le photographe, quel est son point de vue et qu'est-ce qu'il veut nous montrer aussi. Par exemple, ça c'est l'UNICEF en fait qui a commandé un reportage photo sur les migrants et le photographe a choisi systématiquement de montrer des situations positive finalement dans son reportage, mais tout en étant positive et porteuse d'espoir, elle décrive aussi derrière une situation de misère. Mais aussi, ce photographe, justement, il a été envoyé par UNICEF, qui... Les photographes, ils se plaignent parce que la presse n'a plus d'argent pour les envoyer en reportage. On n'a pas le temps de les faire travailler longtemps sur un sujet. Et c'est aussi en ayant le temps d'être avec les gens qu'on arrive aussi à avoir des angles un peu différents et de ne pas juste rester au premier degré d'une situation, c'est-à-dire rentrer dans l'intimité des gens et arriver à trouver un angle intéressant qui fait qu'on peut toucher. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre aussi ? Donc lui, voilà, à chaque fois, il choisit, même si c'est des situations dramatiques, il y a toujours un geste porteur d'espoir. Là, la personne est rescapée, on lui donne une bouteille, on ne le voit pas parce que c'est juste derrière le petit truc. Enfin bon, voilà. Donc c'est des gestes pour sauver, pour... voilà, des réfugiés qui s'entraident.
Peut-être juste pour conclure par rapport aux différentes questions qui avaient été posées sur le fait, quand je lis un journal quotidien, je regarde la photo, mais la photo, le titre, je ne m'attarde pas forcément sur la photo, etc. Juste pour conclure et mettre en valeur aussi la dimension de décryptage des photos que tu fais pour la sensibilisation et la dimension pédagogique d'apprendre aussi à lire une information par l'image. Sur le travail que tu fais sur phosphore de décryptage par rapport à des photos qui sont ou publiées sur les réseaux sociaux ou détournées avec des légendes ou des... On parlait tout à l'heure justement du canot de migrants où en fonction du titre qui va être choisi... la photo va être détournée et on va passer à côté de l'information que le journaliste ou en tout cas que l'intention du photographe. Comment tu travailles toi justement à travers, il y a ce livre là sur Photoshopé, sur le que tu as écrit avec David Groison, nous dire un peu ton travail un peu de réinformation à partir de ou d'information à partir de la photo.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'important aussi, c'est d'apprendre aux gens à savoir qui diffuse une photo en fait, et que il faut pas croire tout de suite. Quand il y a un doute ou quand on sent que c'est une image qui est servie pour appuyer des propos tendancieux, en fait, souvent on se rend compte que cette image, c'est pas l'image du moment en fait. C'est une image, une ancienne image qui a été utilisée, qui est détournée et qui va servir à illustrer. Une situation qui n'est pas vraie. Par exemple, lors des attentats au Bataclan, il y avait eu sur Twitter une photo qui circulait de la jungle de Calais en feu en disant Calais est en train de brûler, tout ça. Et en fait, c'était pas du tout vrai. C'était une vieille image qui datait de plusieurs années. La plupart du temps, toutes les photos qui sont comme ça, un peu virales, enfin, c'est facile de le vérifier soi-même. Hein. En fait, on prend la photo et vous allez dans Google Images. Et vous cliquez sur la petite photo, vous prenez la photo, vous la mettez dedans, et là apparaît tous les sites qui ont utilisé cette photo. Donc en prenant 5-10 minutes, on arrive à voir en fait quand elle a été publiée, qui l'a fait, ça permet aussi de ne pas se laisser manipuler.
Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, ou un éclaircissement, ou une photo qui l'a marqué dans ces derniers mois, ou par rapport à un sujet d'actualité ? Qui aimerait s'exprimer dessus, sur la manière dont il l'a reçu. Donc deux, très bien.
Bonjour, moi je suis psychothérapeute et je vois l'influence des photos et des informations sur les personnes et l'état psychologique paranoïde qui est un petit peu en train de monter, et je suis inquiète. Vous n'êtes pas les seuls responsables, hein, j'entends bien, mais je tiens à éclaircir effectivement les responsables de la presse, notamment catholiques, qui me semblent être des personnes qui doivent s'engager dans le bien-être des personnes. Voilà, sur ce sujet.
Effectivement, je pensais ça, c'est que la photo peut créer des angoisses parce qu'on y projette en fait des... Voilà, dans la répétition. Ouais, mais c'est pour ça aussi que du coup, c'est important de diversifier ses sources et de diversifier ses points de vue par rapport à une situation, de pas rester toujours sur publier la même photo, voilà, et d'essayer de montrer qu'il y a aussi autre chose, que malgré une situation horrible, autour, il y a des gens qui vont créer de la solidarité, qui vont donner des solutions, enfin voilà, et que le... Oui, ben ouais, j'imagine bien, mais c'est ça aussi de notre responsabilité d'essayer de se dire, de montrer aussi d'autres choses, un autre regard.
Non, moi, je trouvais intéressante aussi la discussion qu'on a eue sur le fait de publier ou non les portraits en fait de terroristes, parce que la question qui se pose, je trouve, c'est à quoi ça sert. Je crois que précédemment, sur les premiers attentats, en fait, les portraits des terroristes n'étaient pas montrés. Et moi, jamais, je me suis dit, ah ben, ça manquerait. J'aimerais, en fait, voir à quoi ils ressemblent. Donc, je pense que j'imagine que la question que vous vous posez à ce moment-là, c'est, en gros, quelle information ça délivre et à quoi ça sert. Et donc, j'imagine qu'en fonction du contexte, si, par exemple... un responsable de rédaction estime que pour aider à trouver... Un terroriste qui est en fuite, etc., ça peut être utile, et ben peut-être qu'il va faire le choix de publier cette photo. Alors que si, grosso modo, le terroriste est mort, peut-être que là, il y a même plus d'utilité et aucune information à délivrer, parce que ça ne sert à rien.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a aussi le côté... c'est qui a intérêt à ce qu'on montre ces photos-là. C'est-à-dire, ça rejoint un peu... voilà. Par exemple... ça, c'est une photo que l'AFP a diffusée. C'est en fait maintenant, les djihadistes ont carrément une cellule d'information, du coup, où ils produisent eux-mêmes des photos, ils mettent en scène des films d'exécution, mais c'est très léché, c'est vraiment une chorégraphie, c'est comme un film hollywoodien en fait, et c'est des outils de propagande qui sont faits à destination des musulmans qui vivent en Occident. Et par exemple, ben voilà, ça c'est typiquement le cas. Ça c'est des Égyptiens coptes qui vont être exécutés, ceux qui sont en orange. Voilà, l'AFP elle diffuse cette photo en signalant dans sa légende que oui, attention, c'est une photo de propagande, voilà. Mais sauf qu'on le trouve quand même sur le fil de l'AFP, donc c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, puis en se disant ben voilà, l'AFP c'est sérieux, donc on peut utiliser toutes les photos qu'elle nous donne. Et voyez, par exemple, là il y a un journal anglophone qui du coup à diffuser cette photo, mais sans mettre aucune légende, sans dire au public qui regarde, bah, attention, cette photo, ok, elle est belle parce qu'elle est bien construite, mais c'est une photo de propagande. Donc, faut aussi arriver à faire le point, en fait, de se dire à qui ça va profiter, en fait, la photo qui va être publiée. Donc, évidemment, si le djihadiste est mort, ça n'a peut-être pas aucun intérêt de le personnifier. Après, si c'est des gens qui sont dans la fuite, comme il y a eu à Berlin, tout ça, là, on se dit bah, peut-être que des témoignages de gens peuvent aussi participer à son arrestation.
Donc là, oui. Concrètement, sur la dernière photo, le diffuseur, c'était Daesh.
Ouais, c'était... Attendez, j'avais noté exactement... ça, c'était... C'est l'État islamique qui a un centre de médias et de communication qui est appelé Al-Ayat Media Center. Donc, ils font des vidéos, ils font des mises en scène. Je vous montre, hein, c'est un peu choquant. Là, c'est à Palmyre. Ça aussi, on peut les trouver sur l'AFP. Donc, c'est des enfants qui vont là exécuter des soldats. Et tout ça, c'est fait avec de la musique, c'est grandiloquent, il y a des zooms, enfin, c'est vraiment très très bien fait, et c'est des photos après qui sont reprises sur les sites comme l'AFP. Donc, est-ce que aussi dans ces cas-là, c'est pas un peu dangereux de la part de l'AFP de se dire pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, l'AFP, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont regarder le film, ils vont faire des captures d'écran et ils vont les diffuser. Comme ça, ils se disent, ben voilà, nous, on donne l'information, mais après ça, le journal qui veut vraiment les publier, il peut aller regarder son film et faire sa capture d'écran. Il n'a pas besoin de l'AFP, en fait, pour avoir cette image-là. Je trouve que le fait que l'AFP les diffuse, c'est un peu... Enfin, ça pose question, quoi.
Juste avant la dernière intervention, petit rappel, je vous relance pour vos valises, si vous n'avez pas encore pris vos bagages dans vos hôtels, que c'est maintenant. Voilà.
Hier, Christian Macarian nous a encouragés à faire un travail de vérité. Alors, quelle est la vérité de l'image? Moi, je pars de la réflexion de la dame psychothérapeute, là. J'entends bien votre inquiétude, comme vous avez dit, sur une dérive paranoïde. Non, vous avez parlé de ça? Oui. Alors, je voudrais avoir un propos intempestif, si vous permettez. On est quand même dans une civilisation occidentale où le platonisme a beaucoup marqué. Et je retiens du platonisme le fameux mythe de la caverne qui ruine le sensible au profit de l'intelligible. Et aujourd'hui, on est dans l'inverse. On est dans l'inflation du sensible au détriment de l'intelligible. Et on est, nous, dans une tradition chrétienne où il y a eu, je vous rappelle, la querelle des iconoclastes. Est-ce qu'on doit montrer, pas montrer ? Et donc, moi, j'appelle à un travail sur notre responsabilité de faire accéder les gens à la vérité, pas seulement par l'image. Aujourd'hui, il y a une inflation des écrans dans le contexte éducatif qui selon moi, est folle. Voilà, mais c'était un propos intempestif.
Oui, mais c'est non, mais c'est vrai que l'image doit être accompagnée d'un discours pédagogique en fait aussi, je pense souvent. Non, ben non. L'image toute seule en soi, non.
Ok, merci beaucoup. Vous avez, il y a encore une question ou une. Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'après, c'est aussi une responsabilité d'une bonne pratique en tant qu'éditeur de journaux de faire attention à ne pas déplacer les images de leurs propos et de leur contexte. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas respecté. Et donc, ça n'aide pas le travail des photographes, du coup, quand quelqu'un se retrouve, alors qu'il a été photographié dans une situation autre et qu'il se retrouve son image utilisée pour illustrer un autre propos. Voilà. Mais c'est de la responsabilité justement des iconographes, normalement, aussi de faire attention à ça. Ok, merci Pierre-Angélique, merci à tous, à tout à l'heure.